Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Au
shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle apérophonie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Franck Lepage et de Anthony Pouliken, venus nous parler de l'éducation populaire et de leur conférence gesticulée intitulée « Et vous, au fait, vous vous sentez cultivé ?» Pour cela, nous sommes avec Marie et Clémence de l'association étudiante Sève, qui signifie Savoir, Émancipation, Vie étudiante. Marie et Clémence vont animer l'apérophonie du jour et je vais de suite leur laisser la parole.
Merci beaucoup. Bonjour Franck, bonjour Anthony, merci d'être là. Première petite question, est-ce que vous pouvez vous présenter?
C'est toi qui commençais ça?
Ah, je m'y attendais pas à celle-là.
Non, moi non plus.
Ouais. Yes.
Anthony, c'est un mec vachement sympa.
Et Franck, qu'est-ce que je peux dire sur Franck? On est dans le mouvement des conférences gesticulées. On va dire que Franck, c'est celui qu'on appelle papa. Mais bon, en même temps, il prend de l'âge. On va être obligé de dire pépé. Non, mais voilà, Franck est à l'origine des conférences gesticulées. Et on lui doit bien ça, même si aujourd'hui le mouvement le dépasse largement. Mais c'est lui qui réalise la première fois, qui commet cet acte de la gesticulation. Hein. Et Franck, ça, je peux le dire, parce qu'on a ce point commun. Pendant plusieurs années, même plusieurs décennies, il a baigné dans le milieu de la socioculture, hein, en pensant que l'animation socioculturelle pouvait être un vecteur pour transformer la société. Et puis je crois qu'il a arrêté de croire à ce mythe, hein, comme moi j'ai arrêté d'y croire. Hein, et il a trouvé dans la conférence gesticulée, comme moi j'ai trouvé dans la conférence gesticulée, une façon d'être en congruence, on va dire, c'est-à-dire de pas simplement porter un désir politique, mais de lui donner vie.
Ouais, je te fais ça bien, ouais.
Ouais, ça va comme présentation?
C'est énorme.
On lui avait donné les questions à l'avance, c'est pour ça. Du coup, l'objectif de l'émission aujourd'hui, c'est un peu d'échanger autour de l'éducation populaire et de la conférence que vous ferez tout à l'heure. Et du coup, petite question piège qu'on vous pose à peu près 18 fois par jour. Qu'est-ce que c'est l'éducation populaire?
Alors, ça n'est pas l'éducation du peuple. C'est plus simple de commencer par ce que c'est pas, puisque en fait, c'est un terme qui est très problématique, puisque quand on dit éducation populaire, presque tout le monde entend il faut éduquer le peuple, tu vois. Alors non, ça c'est l'éducation nationale qui s'occupe de ça, qui considère que les gens sont cons, que le peuple a tout à apprendre et on va s'occuper de l'éduquer. Donc ça, c'est pas du tout ça. Donc l'éducation populaire, il faut entendre populaire comme un adjectif. C'est-à-dire c'est un processus éducatif dont la forme est populaire. C'est donc exactement l'opposé de l'éducation nationale, on est bien d'accord, hein. Et comme populaire, ou alors je ne parle pas français, ça veut dire politique, chez nous, hein, en France. L'éducation populaire, c'est donc de l'éducation politique. Il y a deux jambes pour qu'il y ait de l'éducation politique. Il y a ce qu'on appelle des savoirs froids, c'est-à-dire des gens qui ont écrit des livres intelligents sur des questions politiques. Et puis il y a l'expérience des gens. Une infirmière, elle a à nous apprendre sur la privatisation de l'hôpital autant que les gens qui écrivent des livres là-dessus. Et donc, c'est deux. On a une petite image qu'on utilise souvent, on appelle ça un savoir chaud et un savoir froid. Le savoir chaud, c'est l'expérience. Et quand on met les deux ensemble, ça ne fait pas un savoir tiède, parce que nous, on fait moi, je fais du parapente, et donc en aérologie, on ne peut pas mélanger deux masses d'air de températures différentes. Ça ne fait pas un savoir tiède, ça fait de l'orage. Et donc un savoir froid plus un savoir chaud, ça fait une révolution.
Incroyable.
Et l'éducation populaire, c'est le désir culturelle de la gauche, enfin de notre gauche à nous, quoi, la gauche révolutionnaire, c'est ce qu'on raconte pendant 4 heures ce soir. Hein. Et ça consiste à prendre à contre-pied la démocratisation culturelle, hein, qui lui est le projet ou le désir culturel de la droite. Hein. Donc pour nous, faire de l'éducation populaire, c'est renouer avec l'origine du mot culture, à cette époque où culture ne voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est-à-dire en gros art.
Ok. Est-ce qu'il y a toujours eu l'éducation populaire, vous pensez, ou il y a eu une espèce de déclic à un moment donné qui a créé ce que c'est aujourd'hui ?
On en parle ce soir. Les historiens ont tendance à attribuer cette expression à Condorcet, à la Révolution française. On peut en discuter. Grosso modo, l'éducation populaire, on pourrait dire, c'est la dimension culturelle du mouvement social. Il n'est pas inutile de rappeler que le capitalisme, c'est trois. Enfin, c'est, alors lui, il marche sur trois pieds, pour le coup. Le capitalisme, c'est de l'économique, c'est un mode de production basé sur la propriété privée. C'est du social, c'est un mode de répartition de la richesse, et c'est du culturel, c'est un mode d'adhésion à ce système. C'est pour ça que le sport est un système éminemment capitaliste et que la culture, avec un grand Q, c'est une façon de nous faire adhérer à des valeurs qui sont capitalistes. Et donc l'éducation populaire, c'est le contraire de ça, c'est-à-dire c'est la façon dont le mouvement ouvrier, le mouvement social, résiste à l'inculcation bourgeoise pour se fabriquer sa propre culture, qui est une culture de résistance forcément.
Et sur ce que n'est pas l'éducation populaire, et ça va répondre en partie à ta question, pour nous, l'éducation populaire n'est pas une éducation institutionnalisée. Enfin, je veux dire, parce que qui dit institutionnalisation dit domestication. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui des associations qui se revendiquent de l'éducation populaire. Il y a même Jeunesse et Sport qui attribue un agrément d'éducation populaire. Bon, ça, c'est plus ce qu'on pourrait, nous, appeler le socioculturel, hein. Mais qui, au fil de l'histoire, va tuer justement la dimension subversive de l'éducation populaire aujourd'hui. Nous, on a davantage, à la fois dans l'histoire et à travers ce qui se passe aujourd'hui, envie de promouvoir une éducation populaire qui, justement, sort de cette institutionnalisation pour se déployer. Donc, ça se traduit par, dans le 19e siècle, tous les mouvements ouvriers pour l'émancipation de la classe des travailleurs, des travailleuses, etc. Aujourd'hui, pour nous, ce qui se passe actuellement dans la rue pour s'opposer au projet de réforme des retraites est bien plus de l'éducation populaire que ce qui se passe dans la plupart des MJC ou des centres sociaux qui s'en revendiquent pour autant.
Ça permet de dire qu'il n'y a pas de définition arrêtée de l'éducation populaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « l'éducation populaire, pour moi, c'est ça ». On a même, du coup, des définitions qui s'opposent, on est d'accord. Donc, pour nous, l'éducation populaire, c'est ce qu'on vous a dit, l'éducation politique. Mais si vous allez voir, je ne sais pas moi, un centre social, une MJC, un club Léo Lagrange qui se revendique de l'éducation populaire. Ils se revendiquent d'une autre forme. Mais ils disent aussi, nous, c'est de l'éducation populaire, on est d'accord. Hein. Vous voyez bien que quand une MJC ou un centre social fait en sorte de ne surtout pas faire de politique avec ses adhérents, mais dit qu'elle fait de l'éducation populaire, on n'est pas sur la même définition, elle et nous.
Shoesy boy, shame on the little faith he's carry on in a suitcase full of mystery. June is empty, oh. Thank you.
J'arrive dans le service, il est 7h du matin. Mes collègues, elles ont déjà commencé dans le grand couloir. Moi, je vais prendre en charge le petit couloir. Aujourd'hui, à l'assistance publique, au plus que de Paris, qu'on soit du week-end ou de la semaine, on est trois aides-soignants pour 37 malades et 11 toilettes chacune. Hop. Attends, je suis un petit peu intimidée quand même. Hein. J'apprends quand j'arrive dans le service qu'il y a un patient qui est agité. J'ai des astuces dessus pour pouvoir faire ces patients-là. J'ai toujours des petits bonbons dans ma poche. Des bonbons sans sucre. Pourquoi sans sucre? Parce que ça peut aller à tous les patients, hein, même diabétiques. Et puis généralement, ça les détourne un petit peu. Quand tu mets un petit bonbon sucré dans leur bouche, ça leur détourne de leur agressivité. Moi, je mets 20 minutes pour faire une toilette. À l'école, on apprend à faire des toilettes en 45 minutes. Et la démarche qualité, le management, l'accréditation et l'encadrement ont décidé que c'était 6 minutes.
On vient d'écouter un extrait de la conférence gesticulée Tagada de soins de soins de Elisabeth Ferry. Mais du coup, aujourd'hui, vous venez à Eve pour faire une de vos conférences gesticulées. Quand on en parle ou quand on a essayé de la présenter aux étudiants et étudiantes, souvent ils nous demandent est-ce que c'est juste une conférence où vous allez venir faire des roulettes sur scène ? Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer ce que c'est une conférence gesticulée ?
C'est la deuxième question qu'on nous pose. C'est après, qu'est-ce que l'éducation populaire ? C'est mais pourquoi gesticuler ? Il faut le prendre comme un oxymore, c'est-à-dire comme un terme volontairement insolent. C'est-à-dire une conférence, c'est quelque chose de sérieux. Gesticuler, c'est tout le contraire, c'est n'importe quoi, d'accord ? En fait, ça laisse entendre que c'est du savoir qui n'est pas légitime. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre la parole et ils ne sont pas obligés d'avoir un diplôme ou d'être un expert de la question. D'où cette idée de conférence, foutraque, je ne sais pas comment dire, gesticuler. Mais on n'a pas trouvé, on a cherché. Alors on a cherché. On a cherché, donc on a fait une liste de langues de bois, conférence citoyenne, conférence politique, tu vois le genre, au secours, conférence d'autobiographie raisonnée, populaire, et puis finalement on est dit mais conférence gesticulée c'est très bien puisque personne ne comprend ce que ça veut dire, donc ça donne envie de voir ce que c'est.
Et après, sur ce que c'est, c'est une conférence, mais avec un savoir incarné. Voilà, là dans l'extrait que vous avez passé, hein, c'est très chouette que vous ayez passé cet extrait de la conférence d'Elisabeth Ferry, donc qui est aide-soignante, hein, et qui dans cette conférence va nous raconter son métier de l'intérieur, et elle va en produire une analyse politique, c'est-à-dire que dans une conférence gesticulée, le savoir chaud, le savoir de l'expérience, il est premier, et c'est à partir de ce savoir de l'expérience, qu'on va produire une analyse politique, qu'on va à ce moment-là partager des savoirs. Par exemple, dans cette conférence gesticulée, Elisabeth revient sur toutes les réformes successives au cours de la Ve République qui sont venues casser le service public hospitalier, qui sont venues casser les conquis sociaux du lendemain de la guerre 39-45 avec le programme du Conseil national de la Résistance. Elle termine sa conférence en nous parlant du salaire à vie, du salaire à la qualification, du salaire communiste développé par l'association Réseau Salariat et par Bernard Friot. Hein. Voilà, mais c'est son point de départ, c'est son expérience qu'elle agrémente de savoir qu'on retrouve plus classiquement dans une conférence, hein, une conférence classique.
C'est amusant de raconter comment Elisabeth Ferry arrive, parce qu'en fait, elle, Elisabeth Ferry est tirée par sa fille pour venir voir une conférence gesticulée que je fais avec Gaël Tanguy sur la réforme des retraites, notamment, il y a quelques années, et on raconte tout le mensonge de la réforme des retraites et du management, et à l'entracte, elle est super excitée, elle vient nous voir en disant « Mais ouais, mais carrément, moi à l'hôpital, si vous saviez, tout ça. » Puis je lui dis « fais une conférence gesticulée. » Alors elle dit « non, quand même, tu sais, non, ça veut dire j'ai rien à dire, je suis pas légitime, je sais pas monter sur scène, bien sûr, je sais pas parler, enfin tu vois. » Et finalement, ça va travailler dans sa tête, puis un jour, elle va se pointer en disant « Oui, ça se passe comment ?» tu vois. Et puis pour elle, c'est un choc. Moi, j'ai une expression, j'ai une formule que j'aime bien, parce que c'est, je trouve, un stage de conférence gesticulée, c'est comme un stage de parapente. Tu t'inscris d'abord, tu réfléchis après.
Tout à l'heure, Anthony, tu disais que Franck Lepage pouvait être considéré comme le papa, le pépé.
Le papy.
C'est ça, des conférences gesticulées. Franck, d'où est-ce qu'est venue cette nécessité de créer ce nouveau type de conférence ?
De mon licenciement. C'est-à-dire, en fait, la chance qui m'est arrivée formidable, c'est que je me suis fait virer. Et donc, vous allez bientôt découvrir comment ça se passe. Donc, tu te fais virer, tu bénéficies de... Moi, c'était 30 mois d'ACEDIC. Donc ça, c'est génial. C'est l'institution du chômage, c'est un moment dans la vie où on peut repenser à ce qu'on a envie de faire, etc. Et donc, ces 30 mois d'ACEDIC, à un moment, arrivent au bout. Et là, il faut y retourner. Sauf que tu peux plus. Moi, je pouvais pas. Enfin, je pouvais pas retourner à essayer d'être chargé de mission d'une collectivité territoriale pour faire passer des politiques imbéciles sur la démarche projet. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire. Enfin, c'est une question qui est terrible. Hein. Et en fait, il y a très 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 longtemps avant à l'université de Vincennes, j'avais fait un peu de théâtre, tu vois. Donc j'avais apprivoisé ça, la scène. Mais je m'étais rendu compte au moins qu'on meurt pas sur une scène. Ça fait pas mal, ce truc. Et je me disais, tiens, si je refaisais du théâtre aujourd'hui, ça serait quoi? Je veux quand même pas monter du Tchekhov, j'en ai rien à foutre de la Cerisaie. Enfin, je m'en tape, quoi. Antigone, elle peut crever. Enfin, je veux dire, il y en a marre. Il faut l'enterrer, puis qu'on n'en parle plus de celle-là, tu vois. Et donc je me disais, mais je voudrais un théâtre politique, mais il n'y en a pas. Pas au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire pour moi un théâtre politique c'est pas Antigone, c'est Pôle emploi, tu vois, c'est la CAF, c'est ça, théâtre politique. Et les grands auteurs de théâtre, ils écrivent pas là-dessus, par contre ils écrivent sur Antigone, le drame des femmes et du pouvoir. Et donc il y avait cette idée de merde, ça fait 12 ans, j'ai travaillé avec des cabinets, tu le croirais pas, avec le cabinet de Bernard Tapie, tu vois, des gens bien comme ça, tout bon, Marie-Georges Buffet heureusement, enfin bref, des trucs comme ça. Et donc j'ai accumulé un énorme savoir, mais qui sert à rien. Enfin, tu vois, je peux rien en faire. Et donc, il y avait cette idée, si je montais sur une scène, et que si je balançais tout, si je balance comment ça marche, la politique de la ville, cette espèce de saleté que les socialistes nous ont inventée, qu'est-ce que ça donnerait? Et voilà, c'était un pari, si tu veux. Puis il y avait un gars à Avignon qui a relevé le pari, qui a dit, allez, chiche, tiens, vas-y, je te passe ma scène, fais-nous voir ce que ça donne. Et donc, voilà, ça a été le début de ça. Et on s'est rendu compte que ça marchait, enfin que ça provoquait quelque chose, si tu veux. Les gens disaient, ah, putain, c'est super intéressant. Alors je disais, ben, oui, mais enfin, bon, bref. Ça a commencé comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si c'est clair.
Carrément, merci beaucoup.
Thank you.
Ce soir, vous venez faire l'une de vos conférences gesticulées sur le campus de Saint-Martin-d'Air dans Eve, l'espace vie étudiante. La conférence, elle s'appelle « Et vous, au fait, vous vous sentez cultivé ?» Et c'est intéressant pour nous de vous faire venir en tant qu'asso-étudiante sur le campus, parce que mon campus est quand même un gros lieu de production de savoir, et le milieu étudiant, on le connaît, c'est un milieu qui est assez mouvementé. Et on se demandait, est-ce que vous pensez que l'université, ça peut aussi être un lieu d'éducation populaire et un lieu d'émancipation ?
J'ai envie de dire chaque médaille a deux faces. C'est tout l'ambiguïté de cette institution qu'on appelle l'université, c'est que c'est à la fois un endroit où on peut se former, et c'est-à-dire se forger une culture politique. Alors à la fois à travers l'enseignement et puis à travers la vie étudiante. Moi en tout cas, si je prends mon cas personnel, jusqu'au bac, je suis dans un niveau de dépolitisation absolue et totale. Et c'est quand je vais rentrer à l'université que je vais enfin me politiser et commencer à avoir une grille de lecture sur les rapports de domination, etc. Et oui, l'université permet aussi cela, et grâce notamment à l'enseignement formel qui est dispensé dans les amphithéâtres. Et en même temps, l'université est un lieu où sévit une hiérarchie totale et aberrante, quoi, et qui en fait une courroie de transmission de l'idéologie capitaliste, puisque, on l'a dit, le capitalisme, ce n'est pas simplement un mode de production, ce n'est pas simplement un système économique, c'est aussi un système, un régime culturel, c'est-à-dire qui se diffuse en nous, qui nous colonise et qui nous fait adhérer à la religion capitaliste. Or, quel est le principe même de cette idéologie capitaliste ? C'est bien la mise en compétition permanente des individus les uns avec les autres, la concurrence systématique, la hiérarchie, hein. Et la fac n'échappe pas à cela. Et malheureusement, Parcoursup n'a fait que décupler les logiques compétitives et concurrentielles qui étaient déjà très présentes dans le système de l'enseignement. Donc j'ai envie de répondre, oui, l'émancipation par le savoir, oui, mais l'émancipation par la pratique, dès lors que cette pratique elle est ultra hiérarchisée, on peut émettre quelques doutes. Parce qu'il reste toujours la question, pour quelques-uns qui vont passer la porte, combien vont rester sur le seuil hein.
Et puis il faut voir l'université dans son histoire, en fait. Faut pas la prendre comme un truc figé une fois pour toutes. Pardon, j'ai eu la chance, je le raconte parfois sur scène, de faire partie d'étudier à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 de Vincennes, qui a été une université dite expérimentale où on entrait sans le bac. Et il suffisait de présenter 2 ans de fiche de paye, ce qui à l'époque n'était pas un gros problème. Et cette université, la totalité des savoirs était tournée vers la critique du capitalisme. Donc tu vois bien qu'il y a université et université. Et si vous prenez par exemple la dérive absolument catastrophique en France de l'enseignement de la sociologie, qui est passée d'une sociologie il y a 20 ans, dans les années 70, il y a 30 ans, d'une sociologie critique, aujourd'hui à une sociologie totalement dépolitisante, on voit bien comment l'université se transforme. Nous, on a des amis qui ont voulu faire des licences ou des masters de sociologie sur des questions militantes, sur des questions politiques. Ils ont une difficulté à trouver un laboratoire qui les suive, considérable. Par contre, s'ils veulent faire de la microsociologie du skateboard chez les 16-25 ans dans le Cantal, pas de problème. Là, ils vont trouver tous les laboratoires qu'il faut. Il ne reste plus qu'un seul, par exemple, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris, l'EHESS. Il y a plus guère que l'équipe de Boltanski qui est prête à suivre des travaux qui questionnent le capitalisme. Les autres vont dire non, 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 la sociologie, c'est pas politique. Et puis, je te parle de l'histoire puisque tu es en face de moi et que tu fais de l'histoire. Enfin, tu vois, je veux dire, donc, l'université abrite heureusement des enseignants courageux, mais l'institution université, c'est une horreur, par ailleurs.
Nous, on est pas mal conscients et conscientes que c'est pas avec les savoirs un petit peu, comme on disait tout à l'heure, les savoirs théoriques qu'on va apprendre en amphithéâtre que forcément on va aller rechercher l'émancipation. Bon, on a de la chance, on est en sciences humaines, donc parfois on nous passe Franck Lepage en cours, quoi, mais c'est assez rare quand même. Et du coup.
Je suis enseignée à l'université.
Et oui,
ouais, ah bah. Un jour je serai une question du bac.
On espère, je sais pas.
Vu la dérive des sujets du bac depuis quelques années, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que tu termines dans ces sujets. Hein. Dis-nous en quoi le capitalisme est une chose essentielle pour notre humanité. Mais c'est ça, c'est-à-dire que nous l'éducation, en éducation populaire, le savoir qui nous intéresse le plus, c'est le savoir qui est utile à l'action collective. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de produire dans la conférence gesticulée, c'est-à-dire en partant de nos histoires de vie, c'est de fabriquer de la prise de conscience et faire que ce savoir soit tourné vers l'action, c'est-à-dire qu'il devienne un savoir stratégique qui va nous permettre de mieux comprendre le monde et d'agir sur ce monde. Bon, voilà.
Et la conférence gesticulée, l'éducation populaire, c'est de la vulgarisation du savoir universitaire. Parce que qui lit des livres difficiles, chiants, mais indispensables de sociologie? Qui se tape Bourdieu sur 250 pages? Qui s'envoie Boltanski sur 900 pages? J'aimerais savoir. On le sait en réalité. On lit des livres politiques importants. Quand on est en formation, si tout se passe bien. Mais ensuite, quand on rentre dans la vie active, excuse-moi, mais le soir, soit on regarde Netflix, soit on lit un roman policier, mais quand on a une journée de travail dans les pattes, je voudrais savoir qui se plonge dans des livres... Bon. Donc ces livres, qui sont pourtant essentiels, hein, qui sont... Enfin, vous imaginez pas, enfin, dans une librairie, vous allez au rayon sciences humaines, vous allez trouver des trucs anticapitalistes de premier ordre. Hein. Mais ils ne sont pas lus. Enfin, ils sont lus par une pincée d'étudiants qui est obligé de le faire. Bon. Et donc, le truc intéressant avec les conférences gesticulées, c'est effectivement de vulgariser ça, de vulgariser ce savoir. J'ai une anecdote très rigolote, mais moi, elle me plaît beaucoup. Je raconte à un moment, moi, dans ma conférence, des trucs sur Boltanski et sur le nouvel esprit du capitalisme. Et je raconte notamment comment il attaque la notion de projet, de méthodologie de projet, qui est vraiment, vraiment l'aliénation principale aujourd'hui chez nous. Et à un moment, j'ai un doute. Je me dis, il faut quand même que je vérifie deux, trois trucs que je raconte. Je ne peux quand même pas raconter n'importe quoi. Et donc, je vais à la FNAC, à Avignon. Et je demande à la vendeuse, bonjour, vous avez le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski? Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce bouquin en ce moment? Et en fait, je réalise que les gens qui sortent de ma conférence, ils vont à la FNAC acheter le bouquin, tu vois. Et ça, c'est cool, quand même.
Tu finances la FNAC. Bravo.
J'aurais pas dû dire la FNAC. Oui, non, Antigone. Antigone à Grenoble.
Très bien, parfait.
Non, mais par exemple, Bernard Friot, typiquement, le travail de Bernard Friot, qui est un travail épouvantablement difficile à lire, d'après moi, avec le système des conférences gesticulées, ce travail se vulgarise au point que ça devient un objet militant, maintenant. Tu vois. Mais encore faut-il le faire passer, ce savoir. Or, les universitaires, et c'est dans leur obligation statutaire, mais ils ne le font pas, les universitaires ont une obligation de vulgariser leur savoir. Simplement, ils ne savent pas le faire.
Et on le vulgarise, et je dirais même qu'on va au-delà, c'est-à-dire qu'on se le réapproprie pour justement en faire un savoir utile à nos destinées, utile à l'action. Je le dis parce que ça nous arrive évidemment d'avoir des universitaires extrêmement pointus, extrêmement exigeants, qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, mais ce que vous faites dire à Bourdieu, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit, dans la page 412 de la distinction, il y a une note de bas de page qui vous contredit, etc. » Et nous de répondre « Mais ok, mais pour l'éducation populaire, aujourd'hui, Bourdieu, c'est quoi ? Bourdieu, en fait, c'est une boîte à outils. Et Marx est une boîte à outils, et Gramsci est une boîte à outils. Et en fait, on va aller chercher dans ces boîtes à outils un savoir qu'on va se réapproprier pour penser le monde avec nos propres lunettes, pour fabriquer de la stratégie politique, la stratégie militante, etc. etc. Donc voilà, c'est non seulement un travail de vulgarisation, et aussi presque, j'ai envie de dire, dans le sens le plus noble, de réinterprétation à des fins politiques.
Mais ce qui est fou, c'est que ce savoir existe. Je parlais d'Antigone tout à l'heure. Alors, pas dans la version théâtre, hein, vous avez compris que ça m'énerve, mais la librairie Antigone, la librairie anarchiste, féministe à Grenoble, je veux dire, c'est une librairie qui présente un potentiel de critique du capitalisme phénoménal, extraordinaire. Je veux dire, moi, il ne faut pas que j'aille là-bas, j'y suis allé hier, j'ai failli acheter la moitié des trucs, tu vois, je veux dire, ça devrait être interdit par la loi, des librairies comme ça, tu vois. Mais ça veut dire que le savoir sur le capitalisme, il existe. C'est juste qu'il est dans des livres et qu'on est dans un système où c'est pas évident de se taper des livres difficiles. C'est une question de temps, une question de disponibilité, enfin tu vois.
C'est clair. Et nous ici, on essaye un petit peu en tant qu'asso étudiante de pouvoir remettre ça sur le campus, mais c'est vrai que, bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais la situation des étudiants et étudiantes, elle n'est pas évidente. Quand on est obligé d'aller travailler à côté de nos études et qu'on nous apprend à socialiser en allant faire des grosses soirées, on n'a pas le temps en fait, en sortant des cours, de se poser, de faire un arpentage ou d'aller débattre avec des potes autour d'une bière, quoi.
Et donc vous nous faites venir.
C'est ça, et on est très heureux de pouvoir vous faire venir ici. On se demandait un petit peu, en ce moment, on est dans un contexte de mobilisation nationale qui est assez important, et justement, ben, en tant qu'étudiant et étudiante, on est pas mal mobilisés, nous on aime bien ça. Et l'éducation populaire, on se demandait si c'était pas justement le moment de la remettre un petit peu au cœur des luttes, si c'était pas un moteur important. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, que ce qui se vit sur dans les manifs, ce qui se vit dans les AG, ce qui se vit dans les blocages, ce qui se vit sur les routes lorsque des personnes, j'y étais il y a quelques jours, se retrouvent pour bloquer une route, c'est de l'éducation populaire. Nous, on donne cet exemple de dire que pour nous, le mouvement le plus merveilleux, l'exemple le plus merveilleux d'éducation populaire qu'on a pu voir fleurir au cours des dernières années, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, pour définir l'éducation populaire, on aime bien citer Luc Carton, qui est un compagnon de route, un philosophe belge, qui dit l'éducation populaire, c'est quoi ? C'est la transformation d'une expérience de domination, d'une expérience d'oppression, d'exploitation, d'aliénation, en un savoir stratégique tourné vers l'action. En fait, c'est exactement, précisément ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont descendues sur les ronds-points, qui ont partagé leurs conditions matérielles d'existence, qui, en faisant ce partage, se sont fabriqués un savoir politique qui rendait possible la désignation d'un adversaire. La politique, ça n'est rien d'autre que la désignation d'un adversaire. Et pour nous, ce qui s'est passé, c'est évidemment l'éducation populaire. Et je pense que si on considère que le mouvement social, c'est aussi ce qui nous... permet de devenir militant, c'est-à-dire qu'on peut se politiser et devenir militant à travers des lectures, mais je pense que ça fonctionne pour une minorité de personnes. Pour la grande majorité, c'est dans la lutte que la politisation se fait. Et donc l'éducation populaire, elle est conditionnée, j'ai envie de dire. Elle est à la fois un levier, elle est à la fois une cause et une conséquence de ce militantisme qui s'exprime dans la rue.
Je suis d'accord.
Très bien. Bah, du coup, vous avez pas mal répondu à nos questions là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, par contre, qu'elle est moins... Enfin, tu viens de dire que c'était aussi... en fait, les mobilisations qu'on vit au jour le jour et les événements qui peuvent se passer dans la rue, mais est-ce que vous avez l'impression qu'elle est toujours autant d'actualité aujourd'hui ? Parce que nous, quand on parle d'éducation populaire, autour de nous, on nous parle d'un ancien temps. Oui, l'éducation populaire, bon, on faisait ça il y a 40 ans, mais aujourd'hui, est-ce que ça existe vraiment toujours, quoi ?
Il y a un regain, justement, ce que les gens qui te disent ça sont des gens qui, effectivement, sont piégés par cette expression qui est problématique. Parce que ça fait tout de suite penser à des vieux machins du Front Populaire, enfin, tu vois. Ça, c'est le combat sur les mots. On n'a pas lâché cette expression. À un moment où on nous demandait de plus l'employer, par exemple dans le monde associatif d'où je venais, on disait mais il faut arrêter avec l'éducation populaire, il faut parler de développement local, de développement social et culturel, de développement territorial, etc. Et on n'a pas lâché sur cette expression et on s'aperçoit qu'il y a des jeunes aujourd'hui, des militants qui s'en ressaisissent. Donc ça veut dire qu'on peut sauver un concept, tu vois. Bon voilà, et ça c'est une bonne nouvelle. Il reste à abattre le mot projet. Après, ça va.
Justement, tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais de MJC. Aujourd'hui, à Grenoble, on fait face à une remunicipalisation des MJC. On se demandait si vous pensez que l'éducation populaire doit plutôt être prise en charge par un point de vue associatif ou plutôt par l'État et les services publics.
Mais là encore, il faut avoir l'histoire en tête, si tu veux. Mais l'éducation populaire, elle
Là, ça nous embarque sur notre conf.
Vous
voulez pas venir ce soir la voir plutôt ?
Si tu veux, l'éducation populaire, elle est prise en charge par l'État au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. C'est-à-dire que là, l'État se dit oulala, oulala, faut qu'on s'occupe de ce truc-là. Et donc, ça va donner naissance à une direction de l'éducation populaire qui va être un enjeu de lutte. Comment on peut faire ça simple, qui va s'effondrer deux fois, qui va être tué deux fois, une première fois sous la forme d'un ministère de la jeunesse et des sports, et une deuxième fois sous la forme d'un ministère de la culture. Mais donc ça, c'est toute la conférence, donc on ne va pas le faire maintenant. Mais ce qui est évident, c'est que les associations... Qu'est-ce que c'est qu'une association ? Qu'est-ce que c'est que la loi 1901 ? Et pourquoi c'était une grande loi de liberté publique ? Une association, ça ne sert pas à gérer un équipement, ça ne sert pas à gérer une piscine, ça ne sert pas à gérer un théâtre. Ce n'est pas une modalité de gestion. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Une association... C'est ce qui permet l'expression publique d'une critique dans l'espace public. C'est ce qui protège l'expression critique dans l'espace public. C'est à ça que sert cette satanée loi associative. D'accord ? Donc, évidemment, une fois que tu as dit ça, tu regardes à quoi sert une association aujourd'hui et tu pleures. Puisque tu parlais des MJC, j'y ai travaillé 12 ans, c'est pour ça que je peux en parler, si tu veux. Je viens du monde des MJC. Et pour avoir essayé pendant 12 ans de les convaincre que certes, les ateliers cuisses, abdos, fessiers, c'est bien, mais que permettre aux gens de s'exprimer, aux femmes de s'exprimer sur ce qu'elles sont en train de vivre en termes de violence patriarcale, etc., c'est bien aussi. Constat d'échec complet. Pourquoi ? Parce que la vie associative a été instrumentée par le pouvoir au point que les systèmes de financement qui permettent à la vie associative d'exister font que si tu fais un pet de travers, tu perds ton financement. Donc la vie associative, ça c'est toute l'horreur de la décentralisation en 1982-83 des lois de décentralisation. C'est-à-dire que la vie associative qui était un contre-pouvoir, c'était ça une association, sont devenues des appendices du pouvoir. Et si elles ne jouent pas le jeu, elles sautent, elles dégagent. Donc... Ta question, c'est est-ce que vous pensez que l'éducation populaire devrait être prise en charge par les associations ? Oui, à condition de faire complètement changer les systèmes de financement et de faire que les associations redeviennent totalement libres et indépendantes du pouvoir politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
En 1981... Le Parti socialiste prend le pouvoir avec un nouveau président de la République qui s'appelle François Mitterrand. Son élection va notamment être rendue possible par tous les mouvements, les fédés d'éducation populaire qui vont se mobiliser pour son élection. Moi, je suis dans un mouvement qui s'appelle les CMEA. Pour la première fois dans l'histoire, et la dernière d'ailleurs, publiquement, ce mouvement d'éducation populaire appelle à voter pour François Mitterrand. Là où auparavant, ce sont des associations qui se disaient non partisanes, etc., etc. Donc, ils arrivent au pouvoir grâce au travail des associations. Et une fois au pouvoir, ils mettent complètement la main sur les associations. C'est-à-dire qu'ils en font leur courroie de transmission de toute leur idéologie, etc., etc. C'est les années 80 qui ont été une décennie terrifiante en termes de dépolitisation, où en fait, on leur a demandé d'arrêter de faire la politique, de gérer du loisirs. C'est aussi à ce moment-là que les villes vivacances apparaissent avec des banlieues qui crament et donc du coup on va mettre en place des dispositifs pour permettre aux jeunes d'être encadrés durant les vacances avec des loisirs qui visent la pacification, hein, la paix sociale très clairement. Donc voilà, on voit bien comment les associations à ce moment-là deviennent clairement la courroie de transmission. De l'action étatique. Donc aujourd'hui, effectivement, d'imaginer une association qui est subventionnée et qui se met à développer quasiment de l'agit-prop, c'est-à-dire un travail d'éducation politique comme nous, on le fait à l'ardeur, hein, mais on n'est pas subventionné, donc on a une liberté de temps totale. Hein. En fait, aujourd'hui, je n'y crois plus. En tout cas, si vous avez des exemples, donnez-les-moi. Alors oui, on va s'autoriser à faire une revue de presse à l'occasion, éventuellement organiser un spectacle, on va dire politique, mais faire un travail dans la durée qui vraiment vienne interroger toutes les institutions de la domination et qui permettent aux personnes de se doter d'outils critiques pour penser le monde, en fait, j'y crois pas. Je donne juste un seul exemple pour pas être trop long. Hein. Je viens de Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, il y a eu un truc qui a un peu agité le mouvement social au cours des dernières années, c'est la ZAN Notre-Dame-des-Landes. Il y a 4 ans de ça, on est appelé aux urnes pour une consultation. On va devoir donner un avis sur est-ce que ce transfert d'aéroport doit avoir lieu ou ne pas avoir lieu. C'est du pain béni pour les centres sociaux, les MJC qui disent bah, « Ok, là, on appelle nos adhérents au vote, on va leur permettre de se fabriquer un regard critique sur ce projet, on va organiser une soirée débat. » Mais je ne dis même pas une soirée orientée, hein. J'étais tout à fait prêt à la contradiction. Hein. Un partisan du oui, un partisan du non qui débattent, on récupère les arguments, on les analyse et on se construit soi-même un point de vue. Sur les 40 centres sociaux de Loire-Atlantique, pas un seul centre social n'a proposé ne serait-ce qu'un début de discussion sur le sujet. Je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais quand même, enfin, je veux dire, dans votre travail, c'était votre mission que de faire ça. Qui le fait si vous ne le faites pas ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? La réponse est de dire, mais attendez, nous on est financé par le conseil départemental. Je veux dire, le conseil départemental, il soutient le transfert de l'aéroport. Et puis ce projet d'aéroport, c'est Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, ancien Premier ministre. On ne peut quand même pas se mettre nos financeurs à dos. Et c'est cette fameuse phrase de Darkosk, à l'époque où il est ministre de l'Éducation nationale, où il dit, je ne vais quand même pas financer des associations qui défilent sous ma fenêtre. Hein. Avant de rajouter, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Voilà aujourd'hui la problématique dans laquelle les associations sont. Et donc oui, bien sûr que lorsque la ville de Grenoble municipalise un centre social, à la fois je me dis c'est une atteinte à l'action citoyenne, associative, etc. Et pour autant, je ne suis pas sûr qu'il va se développer moins d'éducation politique dans ces structures que ça n'était le cas jusqu'à présent, même si je ne connais pas les centres sociaux de Grenoble qui étaient peut-être à l'avant-garde, qui étaient peut-être de l'avant-garde révolutionnaire. Mais ça, c'est vous qui connaissez le territoire.
Non, mais si, si. Enfin, Michel Rocard a dit que Mitterrand a été élu grâce au MJC. Tu vois. Je dirais, le problème, c'est que, par exemple, le lendemain de l'élection de l'arrivée de la droite au pouvoir avec Mitterrand, l'élection de Jacques Attali, dans les semaines qui suivent, il y a la Fédération française des MJC perd 400 MJC en France, 400 qui sont municipalisés avec des équipes qui disent bon, maintenant on est du même camp. Vous n'allez pas faire du contre-pouvoir, c'est pas la peine. Hein, maintenant ça va quoi. Enfin, vous voyez. Donc la question, c'est En 1945, l'État comprend que financer le contre-pouvoir est une nécessité démocratique.
Financer la contradiction.
Financer le contre-pouvoir, financer les opposants, financer. Je vous donne de l'argent pour me contredire. Mais ça ne va pas durer. Ça va durer quelques années, c'est après la guerre, et puis ça va se refermer très vite. Et puis les années 80, c'est le cauchemar.
Cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara. Uma natureza cuspida e escarrada. Onde existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Ora, cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara. Uma natureza que existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Na sede, o sexo, o peixe, o índio, o rio, concreto invadindo os edifícios. Esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara. Uma natureza cuspe descarrada. Onde existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Na sede, o sexo, o peixe, o índio, o rio, concreto invadindo os edifícios. O nome, o muro, circuito fechado. Aberto pra você.
cara, não me venha com esse papo sobre a natureza.
On arrive bientôt à la fin de cette apérophonie avec Franck Lepage et Anthony Pouliquen. On sait qu'on vous voit ce soir à Eve, à Grenoble, pour votre conférence qu'on a déjà citée plusieurs fois. La question qu'on avait surtout, c'est est-ce que, ça fait un moment que vous faites ces conférences, est-ce que vous avez de nouvelles envies pour la suite?
Mais surtout, on accompagne des gens à faire ça, et c'est ça qui est absolument passionnant. Moi, les gens qui me demandent c'est quoi votre prochaine conférence, je dis mais il y en a pas. Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, tu vois, c'est pas. Sinon, c'est l'effet Carla Bruni, c'est-à-dire elle fait un premier disque formidable et ensuite tous les autres c'est de la merde et on se fait chier parce qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire. Voilà. Enfin, c'est tout. On n'est pas des artistes. Tu vois. Et donc, par contre, le fait d'avoir donné naissance à un mouvement qui est que des gens comme toi, qui nous écoute, ayez envie de faire une conférence gesticulée, ça c'est juste formidable. Enfin, je veux dire, tu te rends compte, on a, sans chercher à le faire, il y a un mouvement qui naît avec des gens qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai des choses à dire, je voudrais faire une conférence gesticulée. Donc, l'essentiel de notre énergie, maintenant, elle passe dans l'accompagnement des conférences gesticulées. Toi, tu viens d'en faire une nouvelle, ouais.
Oui, moi, j'ai une nouvelle conférence gesticulée sur l'écologie.
Contre l'écologie.
Qui s'intitule « L'écologie sans lutte des classes, c'est du gaspillage ». C'est un peu la suite de ma conférence sur les classes sociales. Dans ma conférence sur les classes sociales que je fais en solo, mais il y a des extraits qui sont intégrés à la conférence que je donne ce soir avec Franck. Je m'interrogeais sur la culture comme nouvelle religion de la gauche, mais aussi comme rapport social, c'est-à-dire comment un groupe dominant se sert de la culture pour dominer un groupe dominé. Et j'essaie de comprendre dans ces nouvelles conférences que je fais avec un collègue qui s'appelle Jean-Baptiste, comment est-ce que l'écologie fonctionne de la même façon. Voilà, l'écologie aussi est un rapport social et est un objet de distinction qui autorise le mépris, notamment envers les classes laborieuses, envers les classes populaires. Bon, mais voilà, ça c'est plus les projets perso, mais je rejoins Franck, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça fait 12 ans maintenant que je suis engagé dans ce mouvement des conférences gesticulées, et le travail que je mène à l'ardeur avec les autres camarades, hein, c'est justement pour permettre à d'autres de s'emparer de cette forme. 500 conférences gesticulées ont été fabriquées au cours des 10 dernières années, par donc 500 personnes différentes, hein, et puis c'est exponentiel, quoi, c'est-à-dire que rendez-vous dans 10 ans, il y en aura un millier, et puis bientôt, tout le monde aura fait sa conférence gesticulée et en face, ils seront morts.
D'ailleurs, les gens qui nous regardent derrière la vitre sont en train de se dire « je ferais bien une conférence gesticulée sur la radio en » fait, pour expliquer un peu comment ça se passe, ces trucs-là. Tu vois.
Il y a une conférence gesticulée sur la radio, d'ailleurs.
Oui, qui s'appelle « Pourquoi Mitterrand a tué mon père et la radio associative ».
Et Radio Libre. On revient à Mitterrand. Il est à l'origine de tout. Hein. De tous nos problèmes. Et ben voilà. C'était notre conclusion, c'est ça ?
Ouais, pas mal comme conclusion.
Eh ben merci pour votre invitation.
Merci à vous d'être venu. Et puis à tout à l'heure sur scène alors.
Ouais, super.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.